Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, les attentats de Madrid en 2004. Le 17 et 18 août dernier, à Barcelone et à Cambrils, sur la Costa Brava en Espagne, deux attaques terroristes à la voiture Bélier, revendiquées par l'organisation État islamique, faisaient 16 victimes. Et de nouveau, ce sentiment terrible, où se mêle l'horreur d'un drame et son cortège d'images, connues, trop vues à travers l'Europe ces derniers mois, de Nice à Berlin, en passant par Londres. Un événement qui en rappelle également un autre. La dernière fois que l'Espagne avait été touchée par le terrorisme, c'était en 2004, dans un autre contexte. Mais déjà, l'effroi. Le 11 mars de cette année-là, dans la matinée, 10 bombes explosent dans 4 trains de la banlieue de Madrid. Bilan, près de 200 morts et des milliers de blessés. Des images, l'attaque coordonnée massive, la traque des terroristes plonge alors l'Espagne et le monde dans la stupeur. Parce que ce drame survient dans un pays confronté au terrorisme basque depuis près de 40 ans, qu'il a lieu quelques jours seulement avant les élections générales, qu'il frappe l'Europe 3 ans après les attentats du World Trade Center et que la réaction du gouvernement d'alors pose question pour toutes ces raisons. Cet événement est une rupture de notre histoire récente. En seconde partie d'émission, nous recevrons Mireille Lemareski, ancienne envoyée spéciale permanente à Madrid pour Radio France, chef du service Monde à France Info, membre de la commission d'éthique de la chaîne parlementaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Jeudi 11 mars 2004, Morata de Tarruna, banlieue de Madrid, en Espagne. Il est environ 6h30 ce matin-là, quand 13 hommes montent dans 3 fourgonnettes, chacun tenant un sac de sport. Sur le pas de la porte, 2 hommes restent dans la maison et les encouragent au moment du départ. Puis, les 3 véhicules prennent la route, chacun en direction d'une ville différente. Après une demi-heure de trajet, l'une des voitures s'arrête à Alcalá de Henares, dans la banlieue nord de la capitale espagnole. Il est 7h. Les 4 hommes descendent de voiture, se rendent à pied à la gare, où ils montent dans un train de banlieue. Les autres, dans d'autres véhicules, font de même, dans d'autres villes, distantes de quelques kilomètres. Les trajets des 13 hommes, leur déplacement, tout est coordonné, répété à la minute près. Au même moment, ce jeudi 11 mars, comme tous les matins, le peuple des faubourgs madrilènes monte lui aussi dans ses cercanias, ses trains de banlieue qui convergent vers la capitale. Ils se rendent au travail ou à l'école, des ouvriers, des infirmières, des étudiants, des Espagnols, mais aussi des Sud-Américains, des Roumains, des Polonais ou des Sénégalais. Car ici, c'est l'autre Madrid, loin des quartiers historiques et cossus du centre-ville. C'est le Madrid des cités dortoirs et ouvrières, des immeubles sans âme à l'histoire récente. Parmi ses passagers ordinaires, Ricardo Arias, travailleur clandestin d'origine colombienne de 32 ans. Il habite à Alcalá de Henares, le même endroit où sont arrêtés plus tôt des hommes des camionnettes. Lui est maçon sur un chantier au cœur de la capitale. Alors, comme tous les matins, il s'engouffre dans le train encore ensommeillé, gestes et mouvements automatiques. Ce jour-là, il monte à l'avant du train, par habitude. Il n'y pense pas. Dans ces transports en commun bondés, on ne pense pas, on compte. Oui, on compte les jours qui restent avant le week-end à l'avance vers son quotidien, comme un jour sans fin. À quelques mètres de là, Juan Pastor, lui non plus, ne réfléchit pas ce jeudi 11 mars 2004. Comme tous les matins, ce responsable informatique de 51 ans s'engouffre dans l'un des cercanias aux alentours de 7h, en gare del Pozo. Il monte à l'avant du train, lui. Que ce soit le convoi de Ricardo ou celui de Juan ou la plupart des autres cercanias autour de Madrid, ils se croisent tous à la grande gare d'Atocha, au sud du centre-ville. C'est là qu'on prend un métro ou un bus ou qu'on finit le trajet quotidien à pied. C'est là que des centaines de milliers d'Espagnols se croisent tous les matins. Sauf que ce jeudi 11 mars 2004, à 7h39, le fracas d'un monde qui change s'abat sur la gare d'Atocha à Madrid.
Bonsoir à tous. L'Espagne, frappée au cœur par le terrorisme, le dernier bilan des attentats de Madrid est effroyable. 190 morts, 1250 blessés, 4 trains piégés par plusieurs bombes.
Des cadavres par terre partout, des gens qui brûlaient, qui criaient dans le wagon. C'était horrible.
J'ai entendu tout le monde qui hurlait. Je suis sortie et j'ai vu la porte du wagon qui pendait. Je suis partie en courant et vraiment, le reste, je ne sais pas.
Madame, monsieur, bonjour. Il était 7h30 ce matin à Madrid, heure d'affluence dans les transports en commun, lorsque dans la gare centrale et dans deux autres gares de la banlieue, quatre engins explosifs ont semé la mort.
Il était 7h30. Il y a eu une première explosion. Là, on n'a pas compris. Ensuite, il y a eu deux autres explosions et après, de la fumée blanche partout.
Bonsoir. L'essentiel de cette édition sera consacré aux quatre attentats qui ont ensanglanté les gares de Madrid tôt ce matin à l'heure de pointe. Le bilan s'élève maintenant à 190 morts et 1247 blessés.
La première explosion, elle a eu lieu à 7h35, mais on voyait juste un rideau de fumée grise. Les gens se sont demandé ce qui se passait et quand certains se sont approchés pour mieux voir, c'est là qu'il y a eu la deuxième explosion et puis 20 secondes plus tard, encore une troisième.
Un silence assourdissant, de quelques secondes, comme suspendu, entre l'explosion et les cris. Un silence qui dit l'effroi, la stupeur, l'horreur, qui dit aussi que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est ce silence qui frappe Ricardo Reyes, ce jeudi 11 mars au matin, dans la gare d'Atocha. Le maçon colombien était à l'avant du train, les bombes ont explosé à l'arrière. Il était secoué par le souffle, le convoi qui déraille, mais il est vivant et n'a pas de blessure. Au moment de sortir, il découvre le tableau, les décombres, le train éventré, les corps ensanglantés qui jonchent le sol. Comme à Atocha, à quelques kilomètres, trois autres trains et deux autres gares, Santa Eugenia et El Pozo, ont été frappés par ces mêmes explosions, ce même silence, ces mêmes cris. Juan Pastor, le responsable informatique de 51 ans, était à l'arrière, là où les bombes ont explosé. Il est mort, comme ces dizaines d'autres passagers. Et partout, les mêmes images, des victimes, des débris, des blessés. Certains, le visage en sang, assis sur le trottoir ou allongés sur le bas-côté. Des centaines de survivants aussi, l'air perdu sous le choc, qui marchent lentement le long des rails pour s'éloigner des lieux du drame. Pendant qu'à la télé, le monde voit des scènes de guerre, alors que les premiers secours découvrent l'étendue de la stratégie.
Vous pouvez imaginer ce qu'on a pu trouver là, puisqu'on était les premiers sur les lieux. Nous n'avons pas pu porter secours à tout le monde comme nous l'aurions voulu.
No hemos podido atender a todos como hubiéramos querido.
¿Qué habéis vu?
Nous avons vu des amputations, des hémorragies, des fractures, des scènes d'hystérie et beaucoup de peur, de la terreur.
Étendue de la tragédie, étendue de la stratégie aussi, on le verra plus tard. Pour l'instant, celle des comptes, morbide. 2 minutes en minute, 50, 70, 100 morts, 300, 500, 900 blessés. Puis, fébrilement, on annonce un ordre de grandeur entre 150 et 200 morts, environ 1 millier de blessés, et bientôt le bilan réel, 191 morts et 2000 blessés. En quelques secondes, Madrid, l'Espagne, l'Europe sont frappés en plein cœur. Très vite, les halls des gares, des gymnases, des écoles sont transformés en hôpitaux de fortune. Là, un rescapé tend une épaule pour soutenir un voisin encore inconnu ce matin. Ici, une femme appelle à l'aide pour son ami gravement touché. Les portables qui sonnent partout pour dire qu'on est en vie, mais sur d'autres téléphones cellulaires, comme celui de Juan Pastor, la tonalité infinie bat au rythme de l'angoisse jusqu'au répondeur, dernière présence de celui qui est parti. De ce côté, Ricardo Reyes, hagard face au chaos, comme par réflexe, lui continue son chemin de tous les matins et se rend sur son chantier où il ne dit rien à son patron. Pendant ce temps, du côté des autorités, on met en place une cellule de crise. Il faut à tout prix s'organiser, prévenir une autre attaque, réagir autant que rassurer. À 14h, 6 heures après les attentats, le chef du gouvernement, José María Aznar, prend la parole.
Les terroristes ont cherché à commettre le mal. Il s'agit d'un assassinat massif. Comme toute attaque terroriste, il n'y a aucune justification possible. Mais le terrorisme n'est pas aveugle. Le terrorisme a tué des personnes tout simplement parce que ces personnes étaient espagnoles. Nous savons tous que cet assassinat massif, ce n'est pas la première fois que les terroristes essayent de le commettre. Nous en finirons avec ce groupe terroriste. Les criminels qui ont causé un si grand nombre de décès seront jugés et seront condamnés par des tribunaux qui respectent, eux, la loi.
Face à l'indicible, à l'horreur, ces victimes innocentes, à ce qui échappe à l'entendement, une question. Pourquoi ? Comme pour tenter de maîtriser un événement qui nous dépasse. Réflexe qui génère évidemment une autre question. Qui ? Pour José María Aznar et les différents services de sécurité du pays, comme pour la majeure partie des Espagnols d'ailleurs, une réponse s'impose. Elle tient en ces trois lettres qui depuis plus de 40 ans sèment la terreur dans le pays, ETA, l'organisation séparatiste basque. Quelques heures seulement après les explosions, le premier ministre conservateur appelle le directeur du journal El País et affirme expressément que l'ETA est responsable de l'attentat. Devant les caméras de télé, s'il ne la nomme pas directement, tout le monde comprend qui il accuse. Les journalistes espagnols, puis du monde entier, lui emboîtent le pas. Les sujets s'enchaînent sur la lutte des indépendantistes. On rappelle qu'au mois de décembre dernier, un groupe avait été arrêté avec des bombes dans le but de faire exploser des trains et qu'il y a 10 jours, également, deux jeunes activistes étaient interpellés avec 500 kilos d'explosifs. Pour les Espagnols, le traumatisme est terrible. Le constat d'échec aussi. Oui, on pensait que la lutte antiterroriste d'Aznar avait porté ses fruits. Depuis quelque temps, en effet, l'ETA donnait des signes de recul, probablement un changement de stratégie. Dans les heures qui suivent le drame, la réalité s'écrit terrible, unanime. L'ETA a frappé une nouvelle fois, et surtout comme jamais il ne l'avait fait. Pourtant, dès 10 heures, une voix dissonante s'était fait entendre. Dans un communiqué, Arnaldo Otegi, porte-parole du parti, interdit Herri Batasuna, proche de l'ETA, niait toute responsabilité dans l'attentat. Devant les caméras de télé, Chabil Harald, membre du parti en France, lit ce démenti formel des séparatistes basques.
Il s'agit d'un massacre, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces attentats. Quels qu'en soient les auteurs, ces attentats n'ont aucune justification. Nous tenons à faire part aux familles de notre solidarité, nous compatissons à leur douleur.
Malgré ce démenti, si la piste basque s'impose avec autant d'évidence, à la fois dans les allées du pouvoir à Madrid et dans les médias, c'est que l'Espagne, ce jeudi 11 mars 2004, est à 3 jours des élections générales. Après 8 ans de gouvernement conservateur, les Espagnols sont appelés aux urnes. Dans les sondages, Mariano Rajoy, le candidat du Parti populaire d'Aznar, est annoncé grand favori face à José Luis Zapatero, le candidat du PSOE. L'attentat de la matinée serait-elle une manière pour les terroristes basques d'annuler ou de reporter les élections ? Quoi qu'il en soit, la tragédie provoque la suspension immédiate de la campagne et l'annulation des derniers meetings. Pourtant, le gouvernement et l'opposition décident de maintenir les élections, une manière pour la jeune démocratie espagnole de ne pas céder à la terreur. Pendant que les drapeaux sont mis en berne, les proches de Juan Pastor, l'informaticien mort ce matin, toujours sans nouvelles, cherchent leur ami, comme des centaines de familles dans les différents hôpitaux de fortune qui accueillent les blessés et les cadavres. Ricardo Arias, le maçon colombien, lui, comme des milliers d'Espagnols, rentre du travail, l'air grave. Le soir, des Madrilènes se réunissent spontanément dans le centre de la ville, oui, se rassembler dans le silence pour conjurer la tristesse et la peur. Thérapie de groupe, ô combien légitime. Le soir même, fait rarissime, le roi Juan Carlos prend la parole à la télé pour appeler à l'unité et à la fermeté.
Nous sommes un grand pays qui a su faire preuve de sa capacité à relever les défis et les difficultés. Un pays qui sait très bien que face à la folie et la barbarie, seuls valent l'unité, la fermeté et la sérénité. Unité, fermeté et sérénité dans la lutte contre le terrorisme.
Au fil de cette journée du jeudi 11 mars 2004, les forces de l'ordre démarrent l'enquête. Aux alentours de midi d'abord, la police découvre une fourgonnette suspecte à une centaine de mètres de la gare d'Alcalá de Henares, là où est passé l'un des trains attaqués. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent 7 détonateurs et surtout une cassette audio sur laquelle un homme récite des versets du Coran. Un signe qui ouvre une seconde piste, celle du terrorisme islamiste. Certains experts également signalent que le mode opératoire pencherait plus vers la piste islamiste que vers celle de l'ETA. Traditionnellement, en effet, l'organisation basque annonce toujours ses attaques et les revendique immédiatement. Pour tous, devant leur écran de télévision, le caractère coordonné massif contre des innocents, ce mode opératoire, il fait écho aux attentats du 11 septembre 2001. Du côté du pouvoir, ni le démenti basque, ni la découverte de la camionnette ne modifient la piste privilégiée dès le départ. À 17h, Ana Palacio, la ministre des Affaires étrangères, envoie une note aux ambassadeurs pour qu'ils reconnaissent et affirment, oui, affirment, la responsabilité de l'ETA en toutes circonstances. À 19h, la police nationale diffuse les photos de 9 membres de l'organisation basque, auteurs présumés de l'attentat. À 21h45, le Premier ministre, José María Aznar, passe un nouveau coup de téléphone à El País pour réaffirmer qu'il s'agit bien de l'ETA. Tout ce beau monde parle le même langage, élément de langage. Pourtant, à 21h, le journal Al-Quds Al-Arabi, basé à Londres, reçoit une lettre dans laquelle le groupe Abu Hafs Asmari, lié à Al-Qaïda, revendique l'attentat. La piste islamiste s'épaissit, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ministre de l'Intérieur, Acebes, s'avance devant les journalistes et déclare.
Avant tout, la police considère depuis ce matin que ces attentats sont l'œuvre des terroristes de l'ETA. Mais je viens de donner des instructions pour que l'on ne néglige aucune piste afin de mener toutes les investigations qui nous permettront d'arrêter les auteurs des attentats de ce matin.
À la détention de los responsables de l'attentado de esta mañana.
La nouvelle bouleverse les Espagnols. Depuis des années, ils ont appris à vivre avec la menace des séparatistes basques. Les assassinats dans la rue, les voitures piégées, les bombes ciblées. Ce terrorisme-là est terrifiant, certes, mais il est connu et donc, quelque part, dompté. La piste islamiste, en revanche, plonge le pays dans l'inconnu et ouvre de nouvelles peurs. Au soir de la tragédie, ce jeudi 11 mars 2004, les Espagnols sont sous choc. Mais enfin, pourquoi nous? Et qui sont les auteurs de cette attaque? Où sont-ils? Vont-ils recommencer? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Ainsi, en même temps que la quête de vérité, la traque commence.
Thank you.
Vendredi 12 mars 2004, Madrid. Alors que le peuple de la ville meurtrie se lève dans la douleur et la colère, la famille de Juan Pastor, le responsable informatique de 51 ans mort dans le train d'El Pozo, se rend comme de nombreuses autres familles à l'IFEMA, le parc des expositions de la capitale espagnole. Symbole de la terreur qui a frappé la veille, ce lieu est transformé en morgue provisoire. Les familles des victimes doivent s'y rendre pour identifier les corps ou apprendre la mort de leurs proches. Pour tous, comme pour les médecins, les infirmiers, les bénévoles, l'épreuve de l'identification est insoutenable. Il ne reste parfois qu'une partie du corps. Mais ce jour-là, un miracle se produit. Dans ce parc des expos, les secouristes ont entassé les vêtements et autres effets des victimes retrouvés sur les lieux du drame. Parmi eux, il y a un sac de sport. La veille, il a été transporté au commissariat central dans le centre de Madrid. Pendant la nuit, un policier de garde entend un bruit suspect qui provient de ce sac, la sonnerie d'un téléphone portable. Intrigué, il s'approche, ouvre, et là, il tombe sur une bombe. Il appelle en urgence les démineurs qui choisissent de désamorcer le dispositif. Ils y parviennent au petit matin. 10 bombes ont explosé la veille, 2 autres ont été retrouvées, et comme le veut la procédure, les autorités les ont fait exploser par sécurité. Cette fois, l'arme du crime peut parler. Les enquêteurs suivent alors les cailloux que sèment tous les téléphones portables. Véritables auxiliaires de police, les cellulaires les conduisent directement sur un magasin de lave-pièces au sud de la capitale, autour de la grande mosquée madrilène, dans ce quartier cosmopolite où vit notamment une grande partie de la communauté maghrébine et musulmane de la ville. Le magasin est tenu par 2 Indiens qui indiquent immédiatement à qui ils ont vendu ces téléphones. À un certain Jamal Zougam notamment. Pendant ce temps, le soir du vendredi 12 mars 2004... le peuple de Madrid se réunit sur la place Las Cibeles pour rendre hommage aux victimes.
Mon sentiment, c'est la rage et l'impuissance. Une fois encore, c'est la réponse de Madrid et de l'Espagne en général contre ces vandales qui n'ont eux aucun sentiment. Malheureusement, nous sommes habitués à descendre dans la rue parce que nous avons déjà connu ce type de situation. La réponse de la rue est chaque fois plus importante. Nous espérons tous que cela servira à quelque chose et surtout que les attentats cesseront un jour. C'est notre espoir. Ces manifestations pacifiques sont nécessaires. C'est même une obligation pour que les terroristes se sentent isolés. C'est difficile de se mettre dans la tête des terroristes. Que peuvent-ils ressentir ? Le fait même qu'ils commettent de tels actes signifie que ce ne sont pas des gens normaux. Alors il faut au moins qu'ils se sentent isolés. C'est un peu l'objectif.
Au cœur de la foule, on retrouve Ricardo Reyes, le maçon colombien venu manifester comme des millions d'autres Espagnols, mais aussi Polonais, Sud-Américains, Sénégalais, partout dans le pays. De Barcelone à Séville, en passant par Bilbao, ils sont 12 millions à se réunir ce vendredi soir. C'est le plus grand rassemblement de l'histoire de l'Espagne. Dans le silence et le recueillement, des slogans surgissent. Nous sommes tous dans le train d'Alcalá. Oui, ce nous, appropriation collective de la tragédie qui dit l'union face à la folie meurtrière des hommes. Ces hommes, justement, qui sont-ils? C'est la question qui génère la colère. Alors, dans la manifestation, d'autres slogans surgissent. Une 100aine de manifestants sont réunis au pied du siège du gouvernement parce qu'ils veulent la vérité. Ils ont l'impression qu'on leur cache des choses. Depuis le début du drame, malgré l'avancée de l'enquête, en effet, le gouvernement de José María Aznar maintient le doute autour des auteurs. Pourtant, après la branche politique d'Eri Batasuna, la branche armée, elle aussi, avait démenti toute participation. Alors, pourquoi cet entêtement ? D'autant plus que le samedi, dans l'après-midi, la police arrête 3 Marocains, dont Jamal Zougam, repéré la veille grâce aux 2 propriétaires du magasin de téléphone. À Cebes, le ministre de l'Intérieur vient faire un point sur l'enquête.
Cette arrestation a été ordonnée sur ordre du juge de l'audience nationale. Et c'est une enquête qui vient de commencer, même si, effectivement, elle a déjà donné des résultats aussi importants. C'est-à-dire, 60 heures après cet horrible attentat, nous avons déjà 5 arrestations, même si, j'insiste, on doit rester très prudent sur cette affaire.
Petit à petit, Acebes ajuste ses déclarations. Ce n'est plus que l'ETA, non d'autres pistes maintenant sont envisagées. Il rappelle que ces derniers temps, une frange de l'ETA s'est radicalisée, donc il peut s'agir également d'une alliance de circonstances entre les Basques et le terrorisme islamiste. Mais on le sent bien, à la veille des élections, la piste Al-Qaïda semble gêner le gouvernement. Deux manifestants expliquent pourquoi.
Une des choses que va faire le gouvernement.
Ce que va faire le gouvernement, c'est enquêter sur les attentats après les élections, parce qu'il a peur. Si on révèle maintenant que c'est Al-Qaïda, dimanche, la gauche va gagner. Nous étions tous contre la guerre. Le gouvernement est le seul responsable de notre engagement en Irak. Et maintenant, c'est nous qui payons à cause de lui.
Tout le monde va annoncer qu'il savait depuis longtemps que ce n'était pas ETA. Et c'est ça que les gens commencent à se rendre compte, qu'on leur cache. Et c'est pour ça qu'ils veulent simplement la vérité, qu'on leur dise la vérité. Parce que la télévision dit ce qu'elle a envie de dire. J'ai des amis qui ont la télévision française, ils m'ont dit, mais ils disent qu'en France, que c'est machin. Ils disent, mais s'ils nous disent rien encore. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est honteux quand même qu'on manipule comme ça. Sincèrement, c'est revenir à l'époque d'avant, c'est nous prendre pour des cons.
L'homme à sa terre austère et sérieux qu'impose sa charge. Dès le jeudi 11 mars 2004, le juge Juan del Olmo a été nommé à la tête de l'enquête sur les attentats. Depuis deux jours déjà, il dirige ses hommes. Il sait qu'il faut faire vite et que ses premiers jours sont décisifs pour la suite. De fait, au fil du temps, le puzzle se constitue. D'abord la cassette, avec les versets du Coran retrouvés dans la camionnette, pièce importante évidemment. Ensuite la bombe et les premières arrestations. Enfin, le samedi après-midi, les enquêteurs trouvent une vidéo dans une poubelle, document sur lequel un homme se présente comme le porte-parole d'Al-Qaïda en Europe. Il s'appelle Al-Afghani et revendique l'attentat, à visage découvert. Selon lui, il s'agit de sanctionner la participation de l'Espagne à la guerre en Irak. Et qui dit dans son esprit « sanction » veut dire « terreur ». Le juge del Olmo et ses hommes reconstituent le mode opératoire des 13 hommes. Ils ont chacun déposé une bombe dans un train avant de descendre quelques stations plus tard. L'objectif étant qu'elles explosent toutes au même moment en gare d'Atocha. Le retard de deux des trains a permis d'éviter que le carnage ne soit encore plus terrible. D'abord envisagé comme le stratège, Jamel Zougam, arrêté samedi, semble plutôt être l'un des opérationnels. Les autres criminels sont dans la nature, il faut les arrêter. Le parcours de Jamel Zougam peut les aider. Il est connu des services antiterroristes. Il a été appréhendé, puis relâché en 2001. Oui, au moment de l'enquête en Espagne sur les attentats de New York. On l'a soupçonné de faire partie d'une cellule espagnole d'Al-Qaïda. Parti au Maroc, les autorités du pays avaient averti Madrid de son retour. Et l'homme était surveillé de près. C'est donc la piste de la mouvance marocaine que le juge del Olmo privilégie, et plus particulièrement le GICM, groupe islamiste des combattants marocains, soupçonné d'avoir commis un attentat à Casablanca en mai 2003. Le deuxième fil que tire le juge, ce sont les explosifs. Très rapidement, il mène à un certain José Trasoras, ancien mineur reconverti dans le deal de cannabis. C'est lui qui a vendu les explosifs aux terroristes. L'enquête avance. Pendant ce temps, en Espagne, le dimanche 14 mars 2004, on vote. Et le vainqueur est le candidat du PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy, défait, prend la parole.
Après des élections générales inexorablement marquées par le choc de l'atroce attentat, la participation du peuple espagnol a été exemplaire. Le résultat des urnes oblige les grands partis nationaux à assumer leurs responsabilités. Les circonstances politiques complexes auxquelles nous sommes confrontés exigent une stabilité constitutionnelle et un gouvernement fort. Plus que jamais, la priorité nationale doit être la déroute des terroristes. Je tiens à vous dire que je suis fier d'avoir travaillé aux côtés de José María Aznar et d'avoir bénéficié de toute sa confiance.
Le juge del Olmo continue de suivre le fil, solide apparemment. Très rapidement, deux suspects s'imposent, deux hommes à la tête d'une cellule dormante présente à Madrid depuis la fin des années 90. Le premier est un Tunisien de 36 ans, Serhan Ben Abdelmajid. Discret, cultivé, il s'est radicalisé au début des années 2000. En 2003, une vidéo de Ben Laden appelle pour la première fois à s'attaquer à l'Espagne pour son engagement auprès des Américains en Irak. Dès décembre, Ben Abdelmajid entend exécuter l'ordre du chef d'Al-Qaïda. Il se rapproche alors d'un Marocain de 34 ans, surnommé El Chino, pour ses yeux un peu bridés. Marché conclu, ce dernier s'occupera de la logistique, du financement et des explosifs. Les deux hommes fixent alors une date symbolique, le 11 mars, 911 jours après le 9-11 américain, on a les symboles qu'on mérite. Les deux terroristes recrutent leurs hommes, puis se procurent les explosifs. Voilà, tout est prêt pour le 11 mars. Pour autant, après cette première attaque, l'opération n'est pas terminée. Ben Abdelmajid et El Chino veulent se débarrasser des explosifs qui leur restent. Mais quelques jours après l'attaque, les enquêteurs ont déjà arrêté sept de leurs complices, dont les photos sont ensuite diffusées sur toutes les télés. Les semaines passent, le juge Delomo et ses hommes se rapprochent du but. Les terroristes continuent malgré tout leur projet. Le 2 avril, l'un des leurs dépose des explosifs sur la ligne à grande vitesse Madrid-Séville. Un employé de la gare, heureusement, donne l'alerte à temps, mais l'étau se resserre autour des terroristes. Et le 3 avril, trois semaines après les attentats...
L'opération avait été minutieusement montée par la police nationale. Elle visait à intercepter trois des six individus considérés comme les auteurs principaux des attentats du 11 mars et contre lesquels des mandats d'arrêt internationaux avaient été lancés il y a trois jours. L'appartement où ils se trouvaient à Leganés, une des plus grosses banlieues de Madrid, était surveillé depuis plusieurs jours. Hier, en fin d'après-midi, un important dispositif policier a été mis en place et a juste le temps de battre en retraite sous les tirs des terroristes présumés. Les GO, les forces spéciales de la police, ont donc été appelés pour donner l'assaut. Une fois que tout le secteur a été évacué, ils n'ont pas eu le temps d'arriver à la porte de l'appartement. Une très forte explosion a fait voler en éclats une partie de l'immeuble de 4 étages et créé des dommages à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Les hommes traqués s'étaient immolés. Un bilan qui ne fait que confirmer que l'Espagne doit faire face à un terrorisme d'une nouvelle nature pour elle et qu'elle n'y est peut-être pas tout à fait prête.
La plupart des organisateurs de l'attentat du 11 mars 2004 meurent lors de cette explosion. L'enquête permet tout de même l'arrestation de certains hommes de main, poseurs de bombes, complices et autres vendeurs d'explosifs. Pendant trois ans, le juge Delomo continuera son enquête pour que finalement s'ouvre en 2007 le procès des attentats. Les hommes de main, enfin 13 d'entre eux, 13 inculpés, dont Jamal Zougham, comparaissent et sont condamnés à des peines de 12 à 40 000 années de prison. Oui, en Espagne, comme aux États-Unis, les peines s'accumulent. Ce procès est aussi l'occasion de revenir sur la dimension politique de cet événement. Un an après le drame, une commission parlementaire est ouverte pour comprendre comment et pourquoi le gouvernement Aznar a tant insisté sur la piste basque. Ce dernier s'est défendu en expliquant que ses propres services secrets l'informaient dans ce sens. En face, on dénonce une manœuvre politique à l'approche des élections. Autant de débats qui rappellent que ce 11M, comme l'appellent les Espagnols, reste pour Ricardo Reyes, comme pour les proches de Juan Pastor et des millions d'Espagnols, le souvenir douloureux d'une journée où ils ont tous compris en quelques secondes que plus rien ne serait comme avant.
Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, 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 tirar. Como sin darse cuenta rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que la ira es de cristal que puede estallar. Que aunque parezca extraño te quiero devorar. El aire es de cristal que puede estallar, que aunque parezca extraño te quiero devorar. En una esquina de su boca se dejó estrellar, como la ola que se entrega a la roca. Perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí, pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habito un pedazo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habito un trozo de dolor. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Que el aire de cristal que puede estallar, que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les attentats de Madrid en 2004. Notre invité porte une voix que vous connaissez bien, enfin que les auditeurs de Radio France en général connaissent bien, celle de Mireille Lemaresquier. Bonjour Mireille.
Bonjour Fabrice.
Ancienne envoyée spéciale permanente à Madrid pour Radio France, puis chef du service monde à France Info, où vous étiez déjà d'ailleurs, je crois, quand les attentats sont arrivés.
Oui.
Hein, c'est
oui,
ça.
Oui.
Vous étiez partie depuis un an.
Depuis 2 ans, 3 ans.
Depuis 2 ans, 3 ans. Alors, vous avez eu l'occasion pendant des années de scanner, de scruter la société espagnole. En 2004, où en est l'Espagne? Alors, il y a toujours une petite partie de la réponse dans la question d'un pays qui se porte bien en 2004.
Espagne. Il se porte bien économiquement, mais il y a une société espagnole qui bouge beaucoup parce que José María Aznar s'est engagé dans la coalition de George Bush et de Blair en Irak, a envoyé 1300 soldats espagnols se battre en Irak aux côtés des forces américaines et des forces britanniques, et la population espagnole aux 2/3 est contre cet engagement. Et elle manifeste contre cet engagement.
À quel rythme elle manifeste souvent?
Vous savez, les Espagnols, ils manifestent souvent. Ils manifestent, bon, ils manifestaient contre le terrorisme avec le TA, mais ils descendent souvent dans la rue. Que vous parliez de la place Cibeles où il y a des manifestations, la Puerta del Sol, il y a des manifestations tout le temps à Madrid.
Bon,
sur les remplaces de Barcelone, pareil.
Bien sûr. Donc, ils affirment leur opposition à cette guerre en Irak et surtout à la participation de leur pays.
D'autant plus que le pays voisin, la France, a pris la tête de la coalition contre la guerre en Irak avec Jacques Chirac. Et donc, il y a tout ce parallélisme et cette comparaison qui se fait de part et d'autre de la frontière. Qu'est-ce qu'on fait en Irak, disent les Espagnols. Et José María Aznar était complètement fasciné par George Bush. Il y a eu des sommets où il y avait Blair, Bush et Aznar. Et Aznar avait l'impression, quand il était à leur côté, qu'il était devenu un grand dirigeant. Ça a été un grand leurre. Voilà.
Et il était obsédé par le TA.
Obsédé par le TA parce qu'il a été élu, il a fait 2 mandats, il a été élu comme le champion de la lutte antiterroriste. Mmh. Et donc le terrorisme en Espagne, c'était le TA. C'était quand même. Le TA, c'est 800 morts. Hein. 800 morts et des milliers et des milliers de mutilés. Et donc le parti conservateur, le parti populaire, était le meilleur rempart à l'ETA. Et donc quand cette affaire, ce terrible accident, terrible attentat de la garde à Atocha est arrivé, tout de suite l'ETA était sur les lèvres. Et l'ETA, c'est quand même José María Aznar qui appelait les médias espagnols pour leur dire « c'est l'ETA ».
Alors justement, on va écouter une archive à ce propos, donc des rapports entre l'Espagne, les journalistes espagnols et le pouvoir, qui sont des rapports assez étroits. On va écouter cette archive, il s'agit d'Octave Martí, le correspondant à El País.
Ça fait mal de le dire, parce que c'est une sorte de marchandage avec la mort, que c'est tellement ignoble. Mais on a le sentiment de que le gouvernement, ils ont manipulé l'information. Il y a des choses qui sont très parlantes, comme le message qui a été envoyé le jour même de l'attentat par la ministre des Affaires étrangères, qu'elle a envoyé un message à tous les ambassadeurs de l'Espagne à l'extérieur pour lui dire la thèse, c'est que c'est l'ETA. Il faut jamais envisager d'autre chose.
Le journal du dimanche ce matin affirme que José María Aznar en personne a téléphoné à votre patron à El País pour dire CETA, vous confirmez?
Oui, mais au moment qu'il a téléphoné, on pouvait croire encore que c'était l'ETA. Et on ne sait pas exactement si lui était au courant des informations qui mettaient en doute cette hypothèse. Dans ces cas-là, il essayait de donner l'image d'unité, c'est-à-dire d'éviter que ça soit utilisé de façon politicienne. Mais après, on comprend parfaitement que c'était lui et son gouvernement qui ont utilisé l'attentat de façon politicienne. C'est absolument écœurant. Ferrand et Ignaoul.
Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est sous la pression de services de renseignement, apparemment, hein, de la police, oui, qui aurait donné des informations à la presse, que exactement, ces informations pointant du doigt Al-Qaïda sont sorties.
Exactement. C'est les services secrets qu'ils ont eu marre d'être manipulés, de ces informations ne soient pas rendues publiques, d'écouter un ministre de l'Intérieur qu'ils mentent comme les porte-paroles du gouvernement. Ils mentent comme des arracheurs de dents. C'est une chose absolument écœurante. Ça explique, par exemple, la haine qu'hier on a vu dans les rues de Madrid, Barcelone, parce que les gens sont écœurés de voir comme la télévision espagnole, la télévision publique, manipule les informations.
Donc j'imagine que ça, c'est pas l'essentiel, mais enfin ça a ouvert un débat peut-être entre les...
Un débat, puis il y a une image extraordinaire, c'est le soir de l'élection du 14 mars, l'après-midi, avant les résultats de ces élections générales, où les gens, les madrilènes, parce que les réseaux sociaux commençaient à fonctionner, se sont retrouvés devant le siège du Parti Populaire à la Calle Renova, criant « Mentiroso, menteur ».
Menteur. Alors, on va aller au fond du problème. La question est simple, on a donné un élément de réponse dans le récit. Je pense que vous confirmerez, c'était quoi le but de la manœuvre de la part du gouvernement Aznar et de Aznar lui-même de dire c'est l'ETA.
C'est l'ETA parce que c'est l'ennemi numéro un de Aznar et puis parce que c'était... Parce qu'il avait péché en faisant la guerre en Irak.
Voilà, non, mais c'est
il
ça,
avait
le
péché.
Fond.
Voilà.
Ça veut dire.
Il rentrait dans l'inconnu, les représailles d'une politique étrangère qu'il avait menée.
Et qu'il ne voulait pas assumer.
Voilà.
Bon, après, donc, il y a la défaite de la droite, du camp Aznar.
Oui,
c'est la facture du mensonge à payer, en fait. C'est
oui,
ça.
C'est la facture du mensonge. C'est la facture du mensonge, et ça a été une facture très salée, parce que dans tous les sondages, le parti de Aznar était donné gagnant trois jours avant. Juste avant le 11 mars, il était donné gagnant. Et en fait, est arrivé au pouvoir José Luis Zapatero, c'est-à-dire le Parti Socialiste Espagnol, qui, quelques semaines après, a enlevé les troupes d'Irak.
Qu'est-ce que vous avez pensé, vous qui connaissiez bien l'Espagne, quand vous avez appris ces attentats? Et il n'y a pas de honte à penser que ce n'était pas la piste islamiste, mais que c'était l'ETA, par réflexe. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous?
Pour moi, ce n'était pas l'ETA. Ce n'était pas possible.
C'était quoi les indices
parce
qui vous faisaient penser?
Parce que ce n'était pas la méthode de l'ETA. Ce n'était pas la méthode de l'ETA. L'ETA a toujours visé... L'ETA fait 800 morts. Dans les 800 morts, il y a 600 qui sont des policiers. C'est le tir ciblé. C'est les policiers, les magistrats, les militaires, des casernes parfois. Le seul vraiment gros attentat civil qu'il y a eu de l'ETA, c'est en 1987 près de Barcelone à un supermarché, l'Hypercor, qui avait fait 21 morts. L'ETA ne fait pas dans l'attentat massif avec des civils. Surtout pas, parce que eux, ils sont des politiques. Des oui. politiques armées qui font du terrorisme, mais pour essayer de convaincre une partie de la population. Vous n'allez pas tuer des civils et des enfants. D'une part, et d'autre part, faire ça dans des trains, c'était vraiment pas la tactique de l'ETA. En plus, l'ETA, bon, la branche politique, vous l'avez dit, Rebatasuna, a tout de suite démenti.
Oui.
Mais mieux que ça, il y a un organe de l'ETA, qui est le journal Gara, qui tout de suite a dit, nous ne sommes pas dans cette affaire-là. Et ça ressemblait absolument pas aux méthodes de l'ETA. Alors, je ne comprends pas que le gouvernement, pendant trois jours avant les élections, se soit vraiment cantonné à parler de l'ETA, alors que les services de renseignement, vous l'avez dit, on avait trouvé la camionnette avec des détonateurs et les versets du Coran. Il y avait quand même des signes que c'était autre chose.
C'était plus que des signes.
Voilà, voilà. Et donc, ils ont caché, ils ont menti, ils ont manipulé. On a parlé d'ailleurs du complot de Aznar à ce moment-là.
Et Aznar se défend en disant qu'il a fait preuve de transparence, au contraire, et qu'il a déclassifié des notes de services secrets pour montrer, alors qu'il avait été orienté vers cette piste par ses services. Alors mettons-nous dans la peau, il ne s'agit pas de défendre Aznar, on s'en fiche, mais mettons-nous dans la peau d'un responsable politique, ses services secrets, qui sont les techniciens, qui eux savent, hein, lui disent, mais c'est l'ETA.
Le ministère de l'Intérieur a à l'époque, du temps du gouvernement, Aznar, des conservateurs au pouvoir, est tout puissant. Donc il est à la merci, il est tout puissant. Il est à la merci de la Moncloa, du gouvernement espagnol, hein, du chef de l'État, du chef du gouvernement. Et donc Aznar ne voulait pas entendre parler de quelque chose qu'il ne connaissait pas.
Donc sa défense ne tient pas.
Non, sa défense ne tenait pas. Ce qui est sorti quand même au procès, c'est qu'ils ont caché des pièces. Il y a des pièces de l'enquête le 12 mars, le 13 mars, qui ont été cachées. C'est là qu'on parle de falsification. Voilà.
On sait de quelles pièces.
Mais les pièces qu'avait la police sur des indices que, enfin pas des indices, sur des.
Même des preuves, des éléments.
Voilà, des preuves que c'était des islamistes radicaux qui étaient les auteurs de ces attentats.
Myriam Lemareski, on se retrouve dans 3 minutes. On va écouter Black Party, Banquette. Mireille Marisky avec nous pour parler des attentats de Madrid en 2004. On se rend compte ensuite que tout ça a été fomenté, organisé par une cellule dormante présente en Espagne, cellule dormante d'Al-Qaïda depuis la fin des années 90. Et donc du retard de l'Espagne sur cette lutte contre le terrorisme, est-ce que c'est dû encore au fait que l'Espagne était accaparée par l'ETA ?
Oui, l'Espagne était, en 2004, elle était... braqué sur les histoires du terrorisme basque. Hein. Donc, oui, à partir de 2004, ça a changé. À partir de 2004, on a découvert en Espagne donc, les islamistes radicaux qui étaient capables de faire des attentats avec Al-Qaïda. Et puis, il y a eu quand même des signes avant-coureurs. Il y avait l'attentat de Casablanca, où des Espagnols étaient morts.
En 2003.
En 2003. Il y a eu quand même certaines cellules, y compris, je veux dire, les Français qui sont en relation permanente avec les services de renseignement espagnols, savent qu'il y a des cellules, et les informations passent hein, entre les deux. Hein.
Qu'il y a des cellules... Notamment pour la lutte contre les Basques. Hein,
puisqu'il
y a une partie du Pays Basque en France.
Histoire, je veux dire, c'est des décennies de coopération. Mais sur les histoires des islamistes radicaux et des auteurs d'attentats, il y a certaines cellules qu'on a découvertes en France qui avaient des ramifications à Barcelone, notamment. Hein. Alors, souvenez-vous, je crois que c'est les attentats de l'hypercachère où il y avait un des proches de l'auteur de l'attentat qui était passé à Barcelone pour partir vers la Turquie à ce moment-là.
Oui.
Bon, je veux dire, il y avait quand même des corrélations qui existaient. Ensuite, il y a une énorme communauté marocaine.
Voilà, j'ai dit la corrélation entre Maroc et l'Espagne.
Bon, vous savez, relations compliquées. Hein. Alors, des relations compliquées parce qu'il y a eu une histoire commune quand même. Le Sahara occidental était espagnol. Par exemple, Franco, quand il est parti faire la guerre civile, il était en garnison au Maroc à l'époque. Il y a les fameuses enclaves de Ceuta et Melilla qui sont toujours espagnoles, enclaves au Maroc et que réclament
Maroc. Au nord du Maroc.
Nord du Maroc, c'est quand même la frontière extérieur de l'Europe de Schengen, hein, je le dis, c'est Ceuta et Melilla.
Bien sûr, tout à fait. Bien sûr.
Il y a donc 800 000 Marocains qui vivent en Espagne. C'est une communauté très importante et la plus grande communauté marocaine est en Catalogne. Je le dis à propos des attentats de Barcelone. Donc il y a des échanges très importants avec le Maroc parce que c'est une histoire qui a été commune dans des échanges économiques, etc. Et normalement, il y a une coopération antiterroriste que l'on dit exemplaire. Sauf que là, ça a pêché quand même. Hein. Et une coopération très importante en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Parce que c'est pareil, les immigrants arrivent par le détroit de Gibraltar et sont arrivés ici en Espagne pendant pratiquement 20 ans. Donc le Maroc, c'est le pays avec lequel il faut avoir le plus d'échanges pour les Espagnols. Voilà.
Et comme par hasard, ce qui n'est évidemment pas un hasard, l'un des suspects est marocain. Enfin, c'est la première piste qui amène à l'attentat islamiste, c'est la piste d'un Marocain. Hein.
Ça, c'est en 2004.
On est bien d'accord.
Oui, et à Barcelone, ce sont des Marocains.
Ouais. Alors, on se rend compte qu'il s'agit d'un attentat du terrorisme islamiste. D'abord, c'est la première fois que l'Europe est touchée par Al-Qaïda, et c'est 3 ans après le choc du 11 septembre. Donc, il y a peut-être une rupture, là, une rupture dans notre état d'esprit européen. Donc,
c'est le choc
New York,
en Europe.
Voilà, New York a été touché, et maintenant, voilà, ça vient en
ça
Europe.
Ça vient en Europe, et un an après, un an tout juste après, il y a Londres, les attentats à Londres. Alors que s'ouvrait le sommet du G7 à Gleneagles, en Écosse, le jour de l'ouverture, attentat dans les métros de Londres. Donc le terrorisme islamiste, là c'était le terrorisme d'Al-Qaïda, arrive en Europe avec les attentats d'Atocha.
Avec un terrorisme d'Al-Qaïda qui a une... Alors Al-Qaïda est une organisation, mais on dit était parce que ses faits d'armes appartiennent plus au passé maintenant, une organisation pyramidale avec une vision géopolitique. Daesh, c'est différent, c'est pas le jugement de Dieu et autre chose.
Oui, le califat, etc.
Le califat, etc. Ouais. Donc l'Espagne était...
Vous savez qu'au XIIe siècle, les califats de Grenade et de Cordoue étaient les grands califats du monde musulman.
Alors, j'allais vous le dire, est-ce que dans la logique des terroristes islamistes, l'Espagne tient une place particulière, puisqu'on en rappelle effectivement que le poste occidental avancé de la civilisation arabe et musulmane, c'était l'Andalousie.
En l'Andalous, ça a été 7 siècles. Oui, exactement. Avec Grenade, la mosquée de Cordoue était l'une des mosquées les plus importantes du monde musulman. Et ça reste d'ailleurs, même s'il y a la cathédrale à l'intérieur maintenant. Mais c'est des hauts lieux du monde musulman. Et donc pour les islamistes très pratiquants, très fondamentalistes, etc., c'est vrai que l'Andalousie a une signification particulière. Et l'Espagne. parce que jusqu'à Isabelle la Catholique, voilà.
Toute dernière question, il nous reste quelques secondes. Et est-ce que ça a changé, cet événement-là a changé les Espagnols, leur regard par rapport à la sécurité, à leur place dans le monde et aussi par rapport au fonctionnement de leur démocratie?
Je pense, vous parlez des attentats de 2004.
Oui, c'est ça, bien sûr, oui.
Ben, je pense qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là.
Ça a changé le visage de l'Espagne.
Oui, ça a changé le visage de l'Espagne parce que, bon, l'Espagne était pro-européenne. Elle est devenue encore plus pro-européenne parce qu'elle a compris que c'était toute l'Europe qui était ciblée, qui était concernée et que tout ce qu'on pouvait faire, c'est passer par les échanges de renseignements, au niveau de l'Union européenne. Et, elle a découvert l'islamisme radical.
Merci infiniment, Mireille Maresquie, pour tous ces éclairages et ces souvenirs difficiles, douloureux, y compris pour des journalistes. Hein,
oui.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les attentats de Madrid en 2004, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'ISF, l'impôt sur la fortune.